Le choix d'un successeur, Abou Bakr, 632-634. Pour éviter que la communauté politique façonnée par le prophète Mohammed ne se défasse à sa mort, il était urgent de prendre des mesures décisives et rapides. Qui, donc, allait pouvoir prendre la tête de la communauté? Quatre groupes pouvaient légitimement prétendre à jouer ce rôle. Les habitants de Médine qui avaient soutenu Mohammed, les Zèdes. Même si c'est à Médine que le prophète Mohammed a terminé ses jours, les habitants de cette ville auraient pu craindre que l'élite de la Mecque ne cherche à restaurer sa suprématie sur les Arabes. Les chefs les plus influents de la tribu Quraïchite. Cette tribu s'était convertie à l'islam peu avant ou juste après la conquête de la Mecque en 630. Elle considérait cependant qu'il revenait à l'un de ses chefs l'honneur de prendre la direction d'un État fondée par un des membres de sa lignée, car pour elle, Mohammed étant Quraïchite, il fallait que son successeur le soit aussi. Ali, le fils de l'oncle et tuteur de Mohammed, Abou Talib. Le prophète Mohammed avait pris Ali chez lui. Ali avait épousé la seule fille survivante du prophète, Fatima. Les enfants de Ali et de Fatima étaient les héritiers directs de Mohammed. Les partisans de Ali considéraient que la direction de la communauté devait rester dans la famille de Mohammed et que le successeur de Mohammed devait poursuivre dans la voie du prophète en associant comme lui le pouvoir spirituel et temporel. Cependant, en Arabie, le pouvoir tribal ne se transmettait pas forcément de père en fils. C'était plutôt les chefs de clan qui choisissaient leur nouveau chef parmi ceux qui étaient les plus qualifiés. Ce chef portait le titre de « cher », qui signifie littéralement « vieil homme ». Cela montre bien que l'âge et l'expérience étaient des conditions préalables nécessaires pour pouvoir exercer le pouvoir. Ali, âgé de 34 ans à la mort de Mohammed, et donc encore relativement jeune, ne faisait pas figure de candidat idéal. Les partisans de Ali voyaient les choses autrement. Ils se référèrent à une tradition selon laquelle Mohammed aurait désigné Ali comme son successeur au retour de son ultime pèlerinage à la Mecque. La formulation de cette tradition reste cependant ambiguë, et d'autres musulmans ne la comprirent pas comme une désignation de Ali comme successeur. Pour cela, écoutez le chapitre 13 pour plus de détails sur les chiites, le parti de Ali. Les compagnons. C'est au sein de ce dernier groupe qu'un successeur aurait pu être choisi, puisqu'il s'agissait des premiers habitants de la Mecque qui se convertirent à l'islam, avant même la période de l'émigration vers Médine en 622. Ses compagnons de la première heure venaient en général des clans les moins prestigieux de la tribu de Quraysh. Ils n'étaient donc pas perçus par l'élite quraïchite comme étant appelés à devenir leur chef naturel. Étant donné la situation, le choix d'Abou Bakr, qui était à la fois un compagnon de la première heure et un membre de la tribu de Quraysh, constituait un bon compromis. Relativement âgé, Abou Bakr avait été le deuxième ou le troisième à se convertir à l'islam. Il avait accompagné Mohammed quand il avait fui la Mecque pour Médine, date de l'Hégire, c'est-à-dire émigration. Et il était unanimement reconnu comme un homme intègre, à la réputation sans tache. Aïcha, l'épouse préférée de Mohammed, après la mort de Khadija, était la fille d'Abou Bakr. Celui-ci avait souvent été choisi par le prophète pour qu'il dirige la prière à sa place, y compris lorsqu'il tomba gravement malade, peu avant de mourir. En réalité, le choix d'Abou Bakr comme successeur de Mohammed fut décidé en petit comité par des membres de la tribu de Quraysh, en l'absence de Ali et des Médinois de souche. Pour aller plus loin, le prophète Mohammed fut le premier à avoir réussi à fédérer en une seule entité autant de tribus arabes. Il n'était pas garanti pour autant que l'État qu'il avait créé serait capable de perdurer après sa mort. En voici la raison. Selon une coutume arabe, les chefs de clan qui avaient prêté allégeance au prophète Mohammed pouvaient être déliés de leurs promesses à la mort de celui-ci. Le fait pour un clan de se retirer du nouvel État ne signifiait pas pour autant un rejet de l'islam. Il s'avère cependant que l'acceptation de l'islam par certaines tribus relevait davantage d'un calcul politique que d'une réelle conversion religieuse. Ces groupes auraient pu saisir l'occasion de la mort du prophète pour renoncer à l'islam. C'est ce que firent certains lorsque Abou Bakr fut désigné comme calife. Cette période de l'histoire de l'islam est qualifiée d'apostasie, al-ridda. Certaines de ces révoltes furent menées par des individus qui prétendaient être prophètes et avoir eu des révélations. Abou Bakr, aidé du second calife Omar, réussit à mater ces rébellions. Il imposa également la domination musulmane aux quelques tribus d'Arabie qui n'avaient pas encore accepté l'islam et se prépara à des expéditions militaires en dehors de l'Arabie. L'islam avait réussi à survivre à cette première période de crise qui s'instaura à la mort du prophète Mohammed.